Bienvenue dans Vocation Entrepreneur, votre bulle introspective en psychologie des femmes entrepreneurs. Pour cet épisode 5, j'ai convié Jennifer Guedama, une blogueuse professionnelle créatrice du blog du rédacteur, un blog spécialisé en contenu écrit pour le web. Elle va nous livrer les secrets de son état d'esprit pour créer un business fondé sur le haut de gamme.
Et je pense que quand tu te places comme ça dans une position de quelqu'un, pas de vendeur, mais de quelqu'un qui apporte vraiment de la valeur et donc qui a ce statut plus de conseiller, justement, là, je pense que le prospect qui peut devenir ton client, puis il se rappelle de toi. Parce que tu sais, généralement, les rédacteurs web ou n'importe quel freelance hein, qui prospecte, c'est pas comme ça qu'ils s'y prennent. Ils vont, je reçois souvent des mails de rédacteurs web qui veulent écrire pour mon blog. C'est pas du tout comme ça qu'ils font. Donc, je pense qu'à partir de là, tu te démarques déjà.
Dans cette interview, vous allez découvrir l'état d'esprit qu'il faut avoir, à mon sens, pour convaincre n'importe quel partenaire de travailler avec vous. Jennifer est partie de rien et elle a su se faire une place dans le monde hyper concurrentiel du web marketing. Elle a écrit pour les plus grands blogs dans sa thématique, le contenu pour le web. D'abord rédactrice web freelance, elle s'est frayé un chemin dans l'univers du blogging et a découvert les coulisses pour monter un business rentable. Vous allez découvrir qu'on peut très bien démarrer un business en ligne sans miser sur les réseaux sociaux et en se concentrant essentiellement sur la qualité du contenu. La qualité du réseau est également importante. Si vous arrivez à convaincre des entrepreneurs déjà en place de travailler avec vous, vous gagnerez un temps considérable et vous serez reconnu rapidement comme un expert de votre thématique. Jennifer est une maman blogueuse de 3 enfants. Elle jongle entre ses différentes casquettes et sa façon d'aborder le business est particulièrement relaxante. En parlant de zénitude, installez-vous confortablement pour écouter le parcours de cet entrepreneur qui nous inspire la sérénité. Jennifer, bienvenue.
Merci, Hayat.
Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Vocation Entrepreneur. Alors Jennifer, tu es blogueuse professionnelle, créatrice du blog du rédacteur, un blog spécialisé dans les contenus web. Et dans ton blog, on trouve comment écrire pour le web, des conseils en copywriting, des techniques SEO, ce qu'on appelle le référencement naturel, et tout ce qui tourne autour du métier du rédacteur.
Oui.
Et il y a quelques mois, tu as lancé ta première formation pour aider les rédacteurs à asseoir leur expertise, et ce qui va les aider donc à trouver leur premier, enfin leur client, leur vrai client. Si j'ai fait appel à toi, Jennifer, c'est parce que tu défends un certain type d'entrepreneuriat, qui est celui de la qualité, du haut de gamme. Alors, ça paraît peut-être évident, mais il suffit de plonger un peu dans le monde des formations en ligne pour se rendre compte que la qualité, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et on va y venir plus en détail tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais revenir sur un point particulier de ton passé.
Oui.
Ça se passe pendant tes études, donc tu rêvais de devenir maître de conférences.
Oui.
Et j'aimerais que tu nous expliques en quoi ce métier ressemble à ce que tu fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, parce que j'imagine qu'on ne lâche pas ses rêves comme ça facilement et qu'on doit faire un espèce de switch dans le métier, mais pas psychologiquement. Donc, quel est le rapport entre le métier de maître de conférence et celui que tu fais aujourd'hui ?
Bon, alors c'est vrai qu'à première vue, il n'y en a pas. En fait, moi, le premier critère pour mon métier futur, c'était de pouvoir être présente pour mes enfants.
Oui.
Même quand j'avais 14-15 ans, je recherchais un métier où je pouvais être là pour les voir grandir.
Ah, c'est très jeune, 14-15 ans.
Oui, déjà. Donc, je voulais déjà une grande famille.
Ah, ouais, d'accord.
Oui, toujours. J'ai fait une licence d'anglais, ensuite un master. Mais bon, pour des raisons personnelles, j'ai voulu travailler à la maison. Et donc, je suis devenue traductrice, puis rédactrice web. Suite à ça, j'ai créé mon blog, le blog du rédacteur, donc. Et maintenant que je donne des formations en ligne, finalement, ça rejoint un peu le métier que je voulais faire au départ. C'est-à-dire que j'enseigne des choses, mais à distance, en virtuel, sans voir mes élèves au final. Donc, d'accord. Finalement, c'est la même chose. Je voulais vraiment transmettre quelque chose. Je pense que ça, c'était important pour moi depuis toute oui. jeune. Et finalement, c'est ce que je fais aujourd'hui à travers mes articles de blog ou mes formations.
Et est-ce qu'il ne te manque pas le contact avec les gens ?
Si, forcément, bien sûr. Mais après...
Ça enlève un peu de la magie quand même, oui, l'enseignement.
Oui, oui, c'est sûr, c'est pas pareil. Mais après, il faut savoir que j'ai énormément de contacts avec aussi bien mes lecteurs que mes élèves. Bien sûr, c'est par mail, mais bon, je suis pas non plus totalement isolée. J'ai quand même...
Et justement, ça se passe comment par mail ? C'est-à-dire, vous avez des espèces de correspondances ?
Oui, c'est ça. Alors, tous les jours, je reçois des mails de personnes qui lisent mon blog et qui ont des questions à me poser, aussi bien sur la création de contenu web ou sur le métier de rédacteur web. D'accord. Tous les jours, je prends du temps justement pour échanger avec les gens. Alors, il y en a qui répondent à mes retours, il y en a non. Donc du coup, il y en a qui deviennent vraiment des suiveurs finalement, qui me donnent souvent des nouvelles, qui m'expliquent comment mes conseils ont pu les aider, etc.
Il y a un échange et puis du coup, du point de vue de ta vie privée, tu arrives à avoir cet équilibre dont tu rêvais depuis
tant.
Oui, voilà,
c'est ça. Oui, parce que je gère comme je veux mon emploi du temps et du coup, ça me laisse du temps libre pour mes enfants.
Oh là là, le métier de rêve pour toutes les mamans, finalement.
Franchement, oui. J'ai été traductrice freelance. J'ai commencé en 2011. C'est bien aussi, mais c'est pas pareil. On a toujours quand même des clients, on a des deadlines. C'est pareil pour le métier de rédactrice. Hein. On a des deadlines, mais là, non, le métier de blogueuse, c'est vrai qu'on est totalement libre. On gère totalement notre emploi du temps et c'est ça que j'aime dans ce métier-là, finalement.
Puis on n'est pas exécutant non plus. Parce non. que quand on est freelance, il y a ce côté exécutant.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas vraiment de relation, en fait.
Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça.
Alors, Jennifer, si je te dis, on ne peut pas définir la qualité, on la reconnaît quand on la voit. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Pour moi, la qualité, c'est quelque chose qui saute tout de suite aux yeux. Enfin, j'arrive pas vraiment à expliquer.
Mais justement, si ça te saute aux yeux, c'est exactement ce que ça dit. Donc, on ne peut pas la définir, on la reconnaît.
Oui, c'est
quand
ça.
On la voit.
C'est ça, on la reconnaît, oui. Mais à partir de quels critères ? De mes critères à moi. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Quelque chose qui va...
Forcément, c'est des critères qui sont subjectifs.
Ben oui, totalement.
Ça, c'est sûr.
Totalement.
Mais force est de constater que quand on a, par exemple, un blog de qualité, beaucoup de personnes se retrouvent autour de ces critères-là.
Notamment, déjà, les gens avec lesquels tu collabores. Généralement, on va dire qu'ils sont du même niveau ou en tout cas qui ont le même esprit entrepreneurial que toi, déjà.
Voilà, donc en fait, vous vous retrouvez dans les mêmes valeurs et dans les mêmes méthodes de travail. Hein. Donc, il y a quand même des critères. On peut quand même sortir certains critères.
Oui.
Tu vois ? Ouais, donc on peut sortir des critères. Donc, est-ce que tu penses que le fait d'avoir beaucoup de followers, ça peut être déterminant pour la qualité ou pas ? Est-ce que ça peut dire que c'est qualitatif ou pas ?
Non.
Alors ?
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Pour moi, il vaut mieux faire de la qualité que de la quantité. Donc, dès le départ, déjà, quelqu'un qui pense comme ça, elle sait déjà qu'elle va pas avoir des milliers de followers sur les réseaux sociaux ou être visible partout. Bon, oui, généralement, on remarque que c'est de la qualité parce que c'est des longs articles, ça sort un peu du contenu un peu classique qu'on voit dans ma thématique du web marketing. Mais après, est-ce que c'est pour ça qu'une lectrice lambda, elle va me suivre ? Certains, oui, mais pas tout le monde, en tout cas.
De toute façon, on attire que les gens,
finalement... On attire les gens qui ont des valeurs communes, je pense, et qui ont surtout, au niveau du business en ligne, une vision du business qui est à peu près similaire, je pense.
Voilà, donc en fait, chacun a une audience... bien particulière,
qui lui ressemble,
voilà, qui lui est propre. Oui. Et finalement, la qualité, ça peut être quelque chose de subjectif.
Moi, je pense qu'il faut voir la qualité un peu comme de l'artisanat.
Voilà, exactement.
Tu vois, tu vas pas avoir beaucoup de clients, tu dois pas t'attendre à être la star de ton domaine. que tout le monde te suive, à qui tout le monde veut ressembler, mais c'est pas grave. Je dirais même que c'est tant mieux parce que tu vas viser des personnes qui sont prêtes à payer un peu plus cher pour ce qu'elles considèrent être de la qualité, justement.
Tu vois, cette question de l'argent, ça, c'est très intéressant parce que je suis certaines entrepreneurs qui ont du contenu de très haute qualité, mais dont les formations sont très peu chères. Et je me suis toujours dit que la qualité égale prix élevé. Ou inversement, prix élevé égale qualité. Sauf que je me suis déjà rendu compte qu'en ayant acheté une formation chère, bah, la qualité derrière ne suivait pas.
Oui. Donc, surtout le service client, j'ai remarqué aussi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on essaye de vendre quelque chose de soi-disant qualitatif, puis ensuite, quand on découvre la formation, on se rend compte que finalement, non, c'était un peu du vent.
C'est ça.
Et donc aujourd'hui, je ne me fie plus au prix. Et dans ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant, c'est que pour toi, est-ce que le tarif peut éviter d'avoir des clients qui sont...
Des touristes.
Voilà, des touristes, exactement.
Oui, je pense, oui. Mais après, ça ne justifie pas le fait que tu dois faire des prix indécents. C'est-à-dire que tu vas fixer un prix que tu penses raccord avec la somme de travail que tu as accumulé pour créer ton produit.
Et avec la cible aussi, finalement.
Oui, avec la cible, forcément. Ben oui, parce que si tu mets un produit à 100 euros, forcément, tu vas faire plus de volume. Mais au final, les gens qui sont derrière, ils vont peut-être pas aborder la formation comme toi, tu voudrais qu'ils l'abordent. Mmh. Et du coup, tu vas avoir beaucoup de retours clients, beaucoup de gens insatisfaits peut-être, je sais pas.
D'accord.
Et au final, ça te fait beaucoup plus de travail. Donc, je pense qu'à la base, à l'origine, il faut quand même viser des prix, une certaine gamme de prix. Mm-hmm. Mais ce qui sous-entend aussi que tu fais une certaine gamme de produits.
Oui.
Et pour viser une audience justement qui te ressemble.
D'accord. Tu as commencé en 2011 en tant que traductrice freelance, puis en tant que rédactrice web en 2017. Finalement, la case salariat après tes études, tu ne l'as pas connue, puisque tu as toujours été à ton compte. Et lorsque tu as lancé ton blog sur la rédaction web, tu as tout de suite eu la possibilité de publier dans les sites pour des clients qui ont pignon sur rue. Et j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête lorsque tu as décidé d'attaquer tout de suite les gros poissons. Alors que dans la plupart des cas, le chemin classique qu'on conseille de suivre, c'est de partir du bas et de gravir progressivement les échelons.
Si je reviens sur mon parcours, je me suis inscrite en micro-entreprise en juillet 2017. Et 2 mois après, je travaillais pour une plateforme.
D'accord.
Donc, j'ai quand même mis 2 mois pour commencer à travailler dans ce métier-là, justement, en rédaction web. Suite à ça, une fois que j'ai fait ma mission, donc qui a duré aussi 2 mois, mais entre-temps, j'ai vu que j'étais capable, je me sentais tout à fait légitime pour faire ce travail-là. Il faut savoir aussi que pendant l'été, j'avais pas mal lu des livres, des blogs, tout ça, donc je me suis beaucoup... j'ai accumulé beaucoup de savoir sur le métier.
Oui.
Et ce qui m'a permis justement de me sentir légitime et d'aller viser des clients directement.
Mais tu sais qu'il y en a qui passent des années à tester les plateformes et ils se sentent pas plus légitimes.
C'est bien dommage.
Mais justement, donc c'est pas forcément la quantité de travail finalement. À ton avis, c'est quoi ?
Non, je pense que c'est tout simplement une histoire de confiance en soi.
Oui.
C'est tout. Moi, j'avais confiance en mes compétences, sans être arrogante.
Non, mais on comprend tout à fait. C'est de l'estime de soi.
Je savais que je rédigeais bien. Déjà, d'une part, par les retours de la fameuse plateforme pour laquelle j'avais écrit quand même 100 d'articles. Donc déjà, au bout de 100 articles, on se rend compte que, bon... En plus, c'était sur une thématique particulière. Donc forcément, après, je me sentais à l'aise.
Oui.
Et du coup, oui, j'ai prospecté des clients directement. Oui.
Et ces clients-là, tu les considères comme... c'est-à-dire, est-ce que tu les mets sur un piédestal? Est-ce que tu considères que c'est des gens inatteignables ou est-ce que non, dans ta tête, c'est monsieur et madame tout le monde? Et finalement, vas-y au culot et puis tu verras bien, quoi.
Alors là, ça dépend. Tu parles des clients que j'ai eus en rédaction web ou des webmarketeurs que j'ai
contactés? Non, les gros marketeurs. C'est ceux-là qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais atteindre.
Bah, au final, ils ne sont pas si inaccessibles qu'on pense. Ouais. Oui. Donc déjà, j'avais un client qui était blogueur professionnel, donc il gagne très bien sa vie sur Internet. Donc déjà, le fait d'avoir mis un pied dans son monde, parce que c'est moi qui gérais son site, ça m'a permis un peu de désacraliser.
Ouais, c'est ça, dans les coulisses, quoi.
Oui, c'est ça, le monde du web entrepreneuriat. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben finalement, moi aussi, c'est possible, je suis capable.
Oui, c'est vrai, mais tu as raison, hein, quand tu passes du côté coulisses...
C'est ça, de l'autre côté de la barrière.
Tu désacralises complètement, parce que c'est ce que moi aussi j'ai ressenti. C'est-à-dire que quand on voit les sites super beaux, super bien ficelés, tout ça, on se dit, bon, c'est impossible, j'y arriverai jamais.
Alors qu'au final, c'est des gens comme toi et moi, qui ont des enfants, qui font des courses, qui... Voilà,
qui ont des rêves, voilà, comme toi et moi, exactement. Oui. Et je sais que tu travailles dans une certaine solitude. Donc, tu es une entrepreneur qui suit quelques entrepreneurs, pas beaucoup, pour pas t'éparpiller. J'aimerais que tu nous expliques ce que ça t'apporte, cette solitude-là.
Ben, alors justement, ça me permet de pas m'éparpiller. Et je pense que c'est ça vraiment le... Ça me permet de rester focus. Depuis le début de mon blog, j'ai eu un fil conducteur. Je me fixe des objectifs. Je vois tout ça, si tu veux, à l'horizon, et je me suis fixé un cap. Et je veux pas regarder à droite à gauche en allant essayer telle nouvelle technique, telle nouvelle astuce web marketing. C'est peut-être aussi pour ça que je suis pas très active sur les réseaux sociaux. C'est vrai. J'ai un business model, on va dire, qui... C'est vrai, hein, je suis un peu solitaire, mais en même temps, ça ne m'empêche pas d'avancer.
Ça, c'est intéressant parce que souvent, on pense qu'il faut passer par les réseaux sociaux, sinon on ne réussit pas.
Pas forcément. En tout cas, non. J'ai été présente dès le début sur Facebook, mais vraiment à petite dose, c'est-à-dire que j'ai créé ma page et puis j'allais partager... mes premiers articles dans les groupes destinés aux blogueurs, mais sans plus, c'est tout. J'ai vraiment pas misé là-dessus. Moi, ce que j'ai préféré faire, c'est miser sur la qualité du contenu.
Oui, donc en fait, la qualité se partage automatiquement,
oui,
finalement.
C'est ça, oui. J'ai aussi rédigé des articles référencés, donc SEO. Et ça, bien sûr, ça m'a permis d'avoir le trafic que j'ai aujourd'hui, forcément. Mais je préfère miser là-dessus, c'est un canal beaucoup plus sûr que de miser sur les réseaux sociaux qui sont très éphémères.
Oui, oui, éphémères et chronophages.
Surtout. Et chronophages, exactement.
Voilà, t'es quand même maman de 3 enfants, donc je le rappelle, et le temps est limité.
Je ne peux pas me permettre de passer mes journées sur Instagram ou Facebook ou Pinterest, par exemple.
Et justement, cette solitude, moi, en fait, il y a un truc qui m'intrigue chez toi. C'est le fait que tu sois vraiment zen.
Oui.
Toi, tu es une entrepreneur très zen. Il n'y a pas grand-chose qui te perturbe. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'es pas exigeante. Hein. C'est juste que tu prends les choses comme elles viennent et puis, oh, bah, ça va se régler. Et dans un récent article, donc, tu dis que ton business ne passera jamais avant ta famille. Et comme j'ai dit, tu es maman de 3 enfants. Et pour toi, être entrepreneur ne doit pas prendre le pas sur tout le reste. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des auditrices pour qui ton point de vue va parler. Et comment tu envisages le développement de ton business tout en prenant en compte les exigences que tu as pour ta vie privée?
Oui.
Parce que tu cuisines beaucoup, tu reçois beaucoup de monde à la maison.
Maman.
La vraie maman italienne, quoi. Voilà. Et on se dit, mais comment elle va faire pour se développer, puisqu'on a l'impression que la famille te prend beaucoup de temps, quoi.
Bah oui, bah après, je ne peux pas les mettre à la porte, donc je suis obligée de faire avec. Alors, moi, je sais que pour 2021, je me suis fixée déjà la résolution de dire non quand je n'ai pas le temps. Déjà, ça va me dégager énormément de temps, parce que c'est vrai que j'ai une famille ici. Je suis revenue en France d'abord aussi beaucoup pour ça. Et ils viennent souvent, ils s'invitent souvent pour boire un café, pour boire un thé. Donc, c'est gentil. Hein. Moi, j'aime bien, ça me fait plaisir. Mais bon, à côté, j'ai un boulot. Donc, déjà, le fait de dire non, de refuser et de dire, bah non, voilà, mon métier, c'est un vrai métier, vous savez. Donc, voilà.
C'est vrai qu'on a encore l'impression de devoir se justifier. Alors, moi, personnellement, je ne dis pas encore. Alors, tu travailles où? Bah, sur le web. OK, mais je ne m'attarde pas encore trop. Parce que c'est compliqué à expliquer.
Les gens ont du mal à comprendre. En tout cas, ils ont du mal à comprendre qu'on travaille pour de vrai.
Oui, oui, pour de vrai, exactement.
Moi, souvent, j'ai ma sœur, par exemple, qui me dit « Ah, bah, je vais passer. Bah, » Je lui dis bah, « J'ai du boulot. »« Oh, c'est bon, tu travailleras ce soir. Hein. » Parce que aussi, je leur ai donné, tu vois, je leur ai laissé un peu les portes ouvertes. Donc là, j'ai dit non, stop. Donc déjà, ça va m'aider, je pense. Et... Oui, il y a aussi le fait de se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs à court terme et les découper en petits objectifs. Déjà, ça va m'aider aussi à développer mon business. Voilà, après, il faut savoir que j'aménage aussi mon temps. Je travaille le soir, même si c'est de moins en moins vrai. Je me lève tôt le matin pour travailler aussi. J'essaye comme ça de grappiller des heures dans la journée.
Des heures où tu es productive?
Ben, de toute façon, je suis obligée, j'ai pas le choix.
Oui, oui, tout à fait.
Il faut apprendre aussi à être multitâche. C'est-à-dire que tout à l'heure, par exemple, j'étais en train de faire à manger et pendant que ça cuisait, j'étais en train de faire le montage de mon cours pour ma formation. Donc voilà, il faut arriver un peu à
gérer. Ça me rappelle des choses, ça.
Oui, entre toutes les casquettes et ben, finalement, ça me plaît.
Ouais, il faut être flexible. Cette flexibilité, c'est... j'ai l'impression que c'est pas facile de l'avoir quand même du jour au lendemain. Alors, t'as pas connu la case salariée, mais moi je l'ai connue. Et quand t'es salarié, t'as des horaires fixes, donc ça te permet de te concentrer sur ton travail de telle heure à telle heure. Puis quand tu rentres chez toi, voilà. Et là, quand tu travailles chez toi et que t'es à la maison, c'est plus difficile quand même d'être.
Oui, ah ben oui.
D'être carré, mais en même temps flexible, parce qu'il faut quand même rester flexible. Sinon, ça sert plus à rien de travailler à la maison.
Oui, exactement. Oui.
Donc, c'est vrai que cette flexibilité, elle se travaille voilà, d'année en année et puis on serre un peu les boulons quand ça ne va pas. Je sais que cette exigence qualitative que tu défends dans ton travail et dans ta vie privée, elle déteint aussi sur tes relations avec les clients. Et quand tu abordes un client, alors en tant que freelance, hein, je te parle pas en tant que entrepreneur, voilà. Okay. Quelle posture psychologique en fait tu adoptes pour pouvoir convaincre le client que c'est de la qualité ce que tu vas lui faire et que il est hors de question que tu rabaisses des prix. Enfin, tu vois, moi j'ai un peu l'impression que quand on va voir un client, faut tout de suite se donner de l'importance, sinon on va nous manger quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Alors moi, ce que je pense, c'est que quand tu approches un client, il faut lui montrer que tu n'es pas un simple freelance. Il faut que tu sois vraiment comme un collaborateur, oui. Un conseiller même, je dirais.
D'accord.
Enfin, j'explique tout ça dans ma formation, donc je ne vais pas trop en dire ici. Mais l'idée, c'est qu'il faut être dans un état d'esprit où tu donnes énormément avant de recevoir.
D'accord.
Tu vois? Peu importe ce que tu crées, tu es toujours dans une logique de transmettre quelque chose de valeur. Donc, quand tu vas prospecter un client, il faut déjà qu'en amont, tu aies fait le job et que, par exemple, tu ailles voir son site, tu vois ce que tu pourrais, toi, améliorer, ce qui pourrait améliorer son business et donc sa vie. Voilà, et lui faire comprendre justement, ben voilà, tu lui envoies un mail, tu lui dis, voilà, j'ai remarqué ci, ça, voilà ce que tu pourrais, enfin, ce que vous pourriez avoir si vous faisiez appel à un rédacteur web.
Donc finalement, en fait, tu vas lui montrer ce que tu vas lui apporter, pas ce que tu es. C'est-à-dire qu'il va deviner qui tu es à travers ce que tu vas lui apporter.
Exactement. Et je pense que quand tu te places comme ça dans une position de quelqu'un, pas de vendeur, mais de quelqu'un qui apporte vraiment de la valeur et oui. Donc qui a ce statut plus de conseiller, justement. Là, je pense que le prospect qui peut devenir ton client, il
craque, quoi, en fait, obligatoirement.
Il craque, c'est ça, et puis il se rappelle de toi.
Oui.
Parce que tu sais, généralement, les rédacteurs web ou n'importe quel freelance hein, qui prospecte, c'est pas comme ça qu'ils y prennent. ils vont, je sais, je reçois souvent des mails de rédacteurs web qui veulent écrire pour mon blog. C'est pas du tout comme ça qu'ils font. Donc, je pense qu'à partir de là, tu te démarques déjà.
Voilà, exactement. Tu sais, moi, souvent, je dis que il y a une constante psychologique qui est celle de tout le monde aime se sentir important pour quelqu'un. Quel que soit le statut de la personne, même si c'est une personne très connue, si tu vas sur son site et que tu lui apportes quelque chose de... un point de vue qu'il avait pas remarqué, que tu lui apportes quelque chose qui va bouleverser son business et qu'il avait pas remarqué, là, tu te positionnes... En fait, tu mets ton interlocuteur comme sur un piédestal et il se sent très important pendant un moment parce qu'il se dit « Mais attends, cette personne, elle a pris le temps de venir, d'analyser mon business ou d'analyser mon poste. » Oui, ou voilà.
C'est ça.
Et en plus, elle m'a apporté quelque chose que personne ne m'apporte. Alors que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? C'est « Regardez-moi, je suis bien, je suis intelligent, je suis très compétent. »
Voilà, j'ai telle compétence.
Mais finalement, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, quoi, finalement, ta compétence, quoi. Mm-hmm.
Oui, c'est ça. Ben, finalement, c'est toujours pareil, on en revient toujours au même schéma. C'est pareil quand tu rédiges une page de vente pour vendre un produit.
Oui.
C'est exactement la même chose. Tu dois faire comprendre à ton client ce que ton produit va lui apporter. Et pas simplement montrer à quel point ton produit est parfait.
Ou à quel point tu es parfait.
Ou à quel point tu es parfait.
Voilà.
Mais tu disais justement placer le client sur un piédestal. Oui, je suis d'accord, le placer sur un piédestal. Mais il y a aussi une relation bizarre, c'est que il y a un switch en fait au niveau de la relation, parce que non seulement tu vas te positionner, tu vas le mettre sur un piédestal, donc, mais toi, en lui donnant des conseils auxquels il n'avait pas forcément pensé, tu vas aussi te positionner plus comme un quémandeur.
Oui, c'est ça. Tu te rends indispensable, en fait.
Tu te rends indispensable et tu es un peu, je vais pas dire, enfin, tu es un peu dans la peau d'un, de pas du maître, mais...
Bah si, un peu quand même. Hein.
C'est ça.
En fait, quand tu abordes un client et que tu lui apportes, finalement, il y a une stratégie derrière. Parce que c'est vraiment une stratégie psychologique, hein.
C'est une stratégie gagnante.
Voilà, c'est ça, la stratégie gagnante. Donc, c'est le nom de ta formation. Ça, c'était pour l'aparté. Et tu te mets vraiment dans une stratégie psychologique. Donc, c'est comme un espèce de filet dans lequel tu vas enfermer ton client. Je sais que c'est un peu machiavélique, mais c'est comme ça. Et
c'est machiavélique, mais bon, c'est pas... Tu le manipules, tu le prends pas pour un idiot.
Voilà.
Tu lui apportes quelque chose, voilà. De toute façon, dans tous les cas.
C'est ça. Et du coup, tu le mets en fait. En fait, c'est comme si tu avais créé un espèce de tunnel. Tu sais où est-ce que tu vas l'amener et puis tu vas déconstruire petit à petit les blocages qu'il pourrait y avoir. Comme dans une lettre de vente, en fait. Hein.
C'est
comme
ça.
Dans une lettre de vente, et tu vas déconstruire petit à petit tous les blocages qu'il pourrait y avoir. Mais avant, il faut d'abord prendre connaissance, profiler un peu le client.
Oui, le profil du client. C'est pour ça qu'on s'adresse pas, qu'on n'écrit pas un mail de prospection ou qu'on s'adresse pas à un éventuel prospect de la même façon. On doit avoir une... Tout ça, ça doit être personnalisé.
Voilà, ça doit être personnalisé et ça prend du temps. Tu sais, longtemps, j'ai eu un regard critique sur le copywriting. Et j'aimerais que tu me dises quelle est ta vision du copywriting, justement. Parce que elle peut avoir le copywriting peut avoir différents sens, peut être compris de différentes manières. Pour toi, à quoi ça sert et quel est son rôle ?
Pour moi, le copywriting, c'est d'amener une personne, donc ça peut être un proche, ton enfant même, tu peux même faire du copywriting avec ton enfant, un client, peu importe, d'un point A où il est ignorant, je pense, un point B où, tu lui apportes une solution.
C'est comme l'enseignement, finalement.
Oui, finalement. C'est juste que tu n'utilises pas les mêmes leviers pour arriver au résultat que
tu veux. Alors, justement, c'est quel levier que tu utilises ?
Bah, alors, il y en a qui parlent de manipulation. Moi, je ne parlerai pas de manipulation. Il y a des leviers de persuasion
Ouais.
qui permettent de faire comprendre à quelqu'un, par exemple, qu'il a besoin de ton produit déjà à la base, que ton produit est merveilleux, qu'il arrivera à tel objectif en achetant ta formation. Enfin, tu peux. Il y a tellement. En fait, je pense que tout est copywriting dans la vie. Même quand tu essayes de faire quelque chose à ton enfant, moi j'ai des ados par exemple.
Ah, il faut être fort, c'est sûr. À l'adolescence, il faut être fort en copywriting parce que tu peux forcer personne. Hein.
Tu utilises des techniques, mais en fait, c'est naturel. Moi, je ne pense pas que le copywriting, ce soit une science. Hein. Je pense que c'est quelque chose d'inné chez nous, qu'on l'utilise. Peut-être pas au quotidien, mais qu'on l'utilise souvent, mais qu'on s'en rend pas vraiment compte.
Mais moi, je pense que c'est pas inné chez tout le monde. Parce que j'ai pas l'impression que tout le monde peut faire du copywriting. Tout le monde a les compétences. Bah
déjà, je pense qu'il faut une fibre, tu sais. Faut un peu aimer déjà la psycho. Je pense qu'il y a déjà... Si tu as déjà une certaine appétence comme ça pour analyser les personnes, je pense que tu peux faire un bon copywriter. Mais oui, forcément...
Donc, si tu n'es pas capable de profiler l'autre, si tu n'es pas capable d'empathie dans le sens où tu te mets à la place de l'autre et tu ressens tout ce qu'il peut ressentir.
Mais après, quand je dis que tout le monde fait du copywriting avec ses enfants, c'est parce qu'on connaît notre enfant, tu vois. Donc, à partir du moment où tu connais...
Tu sais où il faut appuyer.
Voilà, tu connais ses faiblesses, tu connais ses attentes, ses rêves, ses objectifs, ses frustrations. Oui, donc tu peux les utiliser pour arriver à tes fins.
Écoute, c'est très, très intéressant ce que tu nous donnes, en fait, comme point de vue par rapport au copywriting et par rapport à l'image qu'on s'en fait. Parce qu'effectivement, j'avais pas vu qu'on faisait du copywriting avec les enfants, même si je le fais aussi, hein. Je fais comme toi. Et moi, ce qui m'intéresse, tu sais, c'est que l'entrepreneur ait un mental sain et puis un mental de un peu de battant. Et pour toi, quels sont les trois conseils que tu peux donner à nos auditrices pour pouvoir aborder sereinement l'entrepreneuriat?
Alors, le premier conseil, ce serait d'avoir de l'ambition, certes, mais surtout d'être patiente et endurante. On est dans une société où tout va très très vite et on s'attend à ce qu'on, quand on crée un business, le succès arrive instantanément. Bah, c'est peut-être vrai dans certains cas, mais la plupart du temps, réussir sur le web demande énormément de travail.
On
sacrifie des soirées, on sacrifie des week-ends. Il peut se passer des mois et des mois avant d'avoir des résultats concrets. Donc, si on se met déjà dans la tête dès le départ que voilà, ça va prendre un certain temps et qu'on se fixe des objectifs réalisables et fixés dans le temps, on évitera la déprime. On évitera la déprime.
Oui, parce que souvent, tu sais, quand on dit mais soyez ambitieux, tu sais, on a l'impression qu'il faut que tu places la montagne devant toi et hop, vas-y quoi. Mais finalement, est-ce que tu visualises?
Loin devant toi, alors je dirais.
Voilà, loin devant toi. Voilà, ça c'est une belle image, parce qu'il va falloir que tu marches avant de l'atteindre.
Ben, voilà, exactement. Mais en même temps, c'est tellement... Pendant cette période de marche, justement, où tu vas vers la montagne, où tu l'escalades, Mais même là, c'est un plaisir, en fait. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que tu apprends énormément de choses. Tu rencontres, virtuellement, je parle, énormément de personnes qui vont t'apporter beaucoup. Tu obtiens des nouvelles compétences, tu essayes d'innover, enfin c'est très formateur, je trouve, cette période-là.
Ouais, il faut être entrepreneur tout de suite dans sa tête,
quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de cesser de se comparer aux autres et de rester soi-même. Alors ça, c'est pas facile. même si on n'avance pas assez vite à notre goût, même si l'autre a plus d'abonnés.
Oui.
Alors, le truc, déjà, c'est que moi, faut dire une chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Oui. Là, je viens d'ouvrir mon compte Instagram, mais sinon, j'avais pas de compte Instagram parce que j'en avais pas l'utilité. Voilà, maintenant, le piège, j'ai remarqué, c'est que depuis que j'ai Insta, c'est vrai que j'ai tendance à, à tomber dans ce piège d'aller regarder
alors, ce que fait l'une, ce que fait l'autre.
Oui, puis même pas forcément dans le business, même au niveau personnel, tu vois, t'as tendance à aller te comparer comme ça avec des personnes qui ont des comptes, voilà. Mais donc oui, moi je dirais que dans le business, faut vraiment rester focus. Si on a des objectifs, qu'on sait où on veut aller et qu'on veut rester soi-même authentique, je pense que il faut pas se comparer.
Faut pas se comparer, peut-être suivre des gens qui nous inspirent vraiment, c'est-à-dire
oui, voilà, c'est ça, qui vont être plus un leitmotiv, qui vont te servir comme ça à te booster, qui ont une vision du business qui colle à la tienne, voilà. Mais pas forcément des vraies concurrentes.
Oui.
Tu vois ?
Oui, c'est-à-dire des business models qui vont t'inspirer toi, qui vont te dire, bah, écoute, moi, dans 2 ans, j'aimerais bien être comme ça.
Ou, voilà, c'est ça.
Voilà, mais ça va pas créer en toi un malaise ou quoi que ce soit. Non. Au contraire, ça va te rassurer parce que tu vas te dire, mais si elle est arrivée à ce stade, ben moi aussi je peux le faire finalement.
Moi aussi, voilà. C'est comme ça qu'il faut envisager le truc. C'est si elle est arrivée à ce stade-là, moi aussi je peux le faire.
D'accord.
Je pense que c'est et continuer son petit bonhomme de chemin en gardant le cap sur ses objectifs et les actions à mettre en place pour y parvenir, tout simplement.
D'accord.
Et enfin, mon troisième conseil, ce serait de ne pas avoir peur d'échouer. De toute façon, l'échec, je pense qu'il est intrinsèque à l'entrepreneuriat.
Oui.
Et qu'il doit toujours servir de leçon et pas être vu comme une impasse.
Voilà, ça fait partie du chemin. Et si on l'intègre dès le départ, bah finalement, on va le banaliser. Enfin, même si personne n'a envie d'échouer, hein, on va pas se mentir non plus.
Non, c'est sûr, mais faut pas laisser ces erreurs... vous minez l'esprit. Ça doit être le contraire. Un échec, c'est une bonne chose si vous arrivez à le prendre comme une expérience.
Oui.
Et cette expérience, elle vous indique ce qu'il ne faut plus faire, justement. Ne plus recommencer ses erreurs.
On en apprend énormément sur soi-même dans l'entrepreneuriat. Et je pense que moi, dans ce cheminement, j'en apprends beaucoup plus que ce que j'avais fait jusqu'à présent, d'un point de vue psychologique. Parce qu'on est... Il n'y a pas de règles. C'est freestyle total et on se met à nu quand même, hein, quelque part. On est vulnérable.
On teste nos limites et on voit qu'on peut dépasser ces limites et il y a certaines choses qu'on fait. Enfin, moi, je sais que rien qu'enregistrer une formation et écouter ma voix, mais c'était juste pas possible. Finalement, je l'ai fait une première fois, je me suis lancée, j'ai vaincu cette peur-là, et maintenant que je suis lancée, ben voilà.
Voilà, et après, tu auras d'autres challenges à relever. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces 3 conseils qui vont nous aider à avancer. Jennifer, où est-ce qu'on peut te joindre si on a envie d'entrer en contact avec toi ?
Alors moi, on peut me joindre par mail à jennifer@leblogdurédacteur.com. ou via ma page Facebook, ma page c'est Le Blog du Rédacteur, ou mon compte Instagram compte Le Blog du Rédacteur.
Je mettrai moi toutes ces infos dans le descriptif de l'épisode. Jennifer, merci pour ton témoignage très enrichissant. Je te souhaite plein de réussite.
Merci, c'est gentil. À bientôt.
Le parcours de Jennifer m'a particulièrement inspirée lorsque je réfléchissais à mon projet sur le web. Grâce à son business model atypique, j'ai découvert que créer un business, ça ne voulait pas dire sacrifier sa vie privée, surtout lorsque, comme moi, on est maman de 3 enfants. J'ai donc relativisé par mon rapport au travail, en général, pour essayer de consacrer de manière équitable du temps à chaque chose importante dans ma vie. Pour moi, vous pouvez créer le modèle qui vous correspond à l'unique condition de bien vous connaître. Faire un état des lieux précis de chaque composante de votre vie. Le temps de qualité que vous souhaitez consacrer à votre famille, à vos amis, à vos loisirs, à votre formation, à votre business, à votre organisation administrative, etc. Bien évidemment, vous n'allez pas faire le grand déballage en une seule fois, sinon vous basculerez dans le tout ou rien, et généralement, c'est plutôt le rien. En ayant clairement conscience de tous les aspects de votre vie, vous pourrez mettre en place une organisation avant d'envisager la flexibilité.
Oui, je fais partie des personnes qui n'ont pas une organisation militaire, mais il se pourrait bien que ce système soit le vôtre. Pour ma part, j'aime me sentir flexible, tout en ayant un cadre qui me rassure et qui me donne une ligne de conduite dans le cas où tout se déroule comme prévu. Par exemple, je suis plus productive le matin concernant la création de contenu. Je vais donc commencer ma journée de travail par la création de contenu et l'après-midi, ça sera plus light, donc ça sera plus du réseautage au sens large, contacter les partenaires avec lesquels je vais travailler, m'occuper de mes réseaux sociaux, contacter ou répondre aux questions de mes collègues de travail, c'est-à-dire les personnes, les quelques entrepreneuses avec lesquelles je partage mon quotidien. Un autre point essentiel que je retiens de cette interview, c'est que la qualité de contenu est un investissement à long terme. Si vous misez sur un business de qualité, le démarrage sera peut-être lent, mais le travail finira par payer. Parce que le contenu de qualité, c'est quelque chose de viral. Bien sûr, on ne peut pas se passer de promotion, faire connaître son travail, ça reste la meilleure manière d'être reconnu pour son travail. Mais il y a d'autres canaux qui existent en dehors des réseaux sociaux. Pour le blogging, les articles invités écrits dans les blogs de renom sont un excellent moyen de faire connaître son expertise et de ramener du trafic régulier sur votre propre blog. Pour le podcast, l'interview est l'une des meilleures façons de se faire connaître car vous partagez l'audience de votre invité et vous lui permettez de s'exprimer sur sa spécialité. Le conseil que j'ai à vous donner par rapport à la qualité de votre business, c'est ne soyez pas avare dans ce que vous donnez à votre audience. Plus vous donnerez un contenu de qualité gratuit et plus vous récolterez un engagement fort de la part de votre audience. Il ne faut pas avoir peur de partager ses connaissances puisqu'en donnant des informations précieuses, vous ne perdrez rien de votre côté et vous gagnerez en légitimité. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est lorsque vous souhaitez aborder un prospect. Ne vous précipitez pas pour envoyer un mail sans rien connaître de la personne que vous souhaitez aborder. Encore pire, la prospection en masse, c'est la meilleure façon de vous blacklister. Là encore, la façon d'aborder une personne doit être extrêmement qualitative. Essayez de connaître votre prospect, allez voir ses réseaux sociaux, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il déteste, et réfléchissez à ce que vous pourrez lui apporter. Ce qui va faire que vous deviendrez indispensable pour lui et que votre offre sera irrésistible. Voilà pour mon analyse du jour. J'espère que ce sujet vous aura aidé à avancer. On se retrouve au prochain épisode de Vocation Entrepreneur pour aborder des sujets encore plus passionnants. Vous souhaitez vous débarrasser du syndrome de l'imposteur ? Inscrivez-vous à ma série privée de 7 épisodes sur comment venir à bout du syndrome de l'imposteur. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 1 sur ce sujet, je vous invite à aller faire le point sur votre légitimité à entreprendre. Tous les liens sont sur le descriptif de cet épisode. Vous aimez mon contenu ? Likez, partagez, commentez. Et ce qui m'aidera le plus, c'est une note sympa sur Apple Podcast. N'oubliez pas, prenez soin de votre mental.